Bonjour, j'ai demandé à ChatGPT de rédiger mon texte autour d'une question centrale, comment évolue la relation client en 2023 ? Et voici sa réponse. La relation client évoluera probablement vers une plus grande personnalisation, un meilleur ciblage et une plus grande précision des messages envoyés aux consommateurs. Jusque-là, on est OK. Les technologies de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données seront de plus en plus utilisées pour améliorer le ciblage et la segmentation client. C'est déjà le cas. Les entreprises seront plus à même de comprendre ce que leurs clients veulent et leur fournir ainsi des expériences plus personnalisées. C'est déjà en marche. Les entreprises auront également recours à une plus grande variété de canaux et de plateformes pour communiquer avec leurs clients et leur fournir ainsi une expérience globale. Et enfin, ChatGPT rajoute, les entreprises devront également s'efforcer de maintenir une présence en ligne et de fournir des informations régulières et pertinentes aux consommateurs. Et ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce sont les humains. C'est plutôt pas mal comme définition, mais effectivement, il manque cette dimension capitale, l'humain. L'humain dans la relation client. Et récemment, lors d'un événement des Big Boss consacré à la relation client, les différents intervenants, dont notre invité que nous retrouvons dans un instant, Damien Nuitens, directeur expérience client et opération chez Edenred, ils ont tous mis en avant l'émotion, l'humain, et finalement la discussion, voire la création de communauté entre marque et client. Donc, nous sommes là dans l'immatériel. Et donc, comment faire pour que la technologie soit complémentaire mais ne remplace pas la relation humaine. Et d'ailleurs, sur ce dernier point, petite parenthèse, le psychiatre David Gourion, qu'on connaît tous, expliquait récemment sur une radio publique qu'il avait demandé à ChatGPT d'analyser des schémas de pensée des êtres humains, souffrant ou pas d'ailleurs, de troubles psychologiques, voire psychiatriques. Eh bien, l'intelligence artificielle n'a pas été bonne du tout sur ce coup-là. L'humain a beaucoup de mystères, mais il a encore beaucoup d'avenir. Ouf. Avant de retrouver notre invité et dans un tout autre sujet, sachez qu'à l'occasion de la Summer Edition qui se déroulera les 9, 10 et 11 juin prochains au Club Med d'Opio, c'est en Provence, les Big Boss se sont associés au cabinet de chasseurs de têtes dans le digital Aravati pour lancer le palmarès des 33 trentenaires du digital les plus prometteurs et des 45 quadras du digital tout aussi prometteurs et les plus en vue. Alors si tu as un parcours et que tu en es fier, parsemé d'innovations, de prises de risques et d'initiatives, tu as peut-être le profil idéal pour rentrer dans ce concours du titre Big Boss 33 ou Big Boss 45. Faut s'inscrire. Le lien est dans le texte qui accompagne ce podcast. Et tout de suite, notre invité. Notre invité aujourd'hui, Damien Nuitens. Bonjour.
Bonjour Michel.
Vous êtes le directeur expérience client et opération chez Edenred. On va peut-être commencer par situer Edenred en quelques mots, présentation, qu'est-ce que vous faites ?
Alors Edenred, c'est une plateforme digitale de services et de paiement qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte dans 45 pays, 52 millions d'utilisateurs, 2 millions de commerçants partenaires et au travers de 950 000 entreprises ou collectivités qui sont nos clients. Et en fait, on propose des solutions de paiement à usage spécifique, par exemple dédiées à l'alimentation, on est l'inventeur du titre restaurant en France, ou encore des solutions de mobilité ou de paiement professionnel. Donc on voit qu'on a un panel de solutions qui est large. Il y a pour une métier en commun d'accompagner tous les acteurs du monde du travail sur les dimensions qui peuvent être les leurs.
Ouais, vous avez dit titre resto. À l'époque, on appelait ça ticket resto. Hein, mais je...
Tout à fait.
Il y a un bon bout de temps.
Ticket... alors, non, mais alors, ticket restaurant, d'ailleurs, c'est le produit d'Edenred qui fait l'objet, voilà, qui fait l'objet d'un copyright, mais ouais. C'est le nom de notre offre en France.
Donc, si j'ai bien compris en vous écoutant, vos clients sont avant tout des entreprises, même si vos produits sont destinés aux salariés.
Tout à fait, et c'est la spécificité de notre modèle en termes d'expérience et de relations clientes, c'est que finalement, on a trois clients. On a les entreprises, les collectivités locales, par exemple, les CSE aussi, les comités d'entreprise, qui achètent nos solutions. Les salariés, vous en parliez, Michel, ils les utilisent au quotidien, comme la carte ticket restaurant. Et puis, évidemment, nos partenaires marchands aussi, comme la boulangerie en bas de chez vous, le restaurant en bas de chez vous, chez qui vous allez pouvoir utiliser nos solutions.
Ouais, ouais. Mais dans ce contexte, vous qui êtes directeur expérience client et opération, quel est votre périmètre finalement ?
Alors au sein du comité exécutif d'Edenred en France, en fait, j'ai la responsabilité de trois directions. Une direction de l'expérience client, qui est là pour travailler sur la voix du client, les parcours clients, l'amélioration continue. J'ai la direction de la relation client qui, tous les jours, gère les relations avec ces trois parties prenantes que sont nos clients, nos utilisateurs et nos partenaires marchands. Et puis, la direction des opérations qui est finalement à la responsabilité de continuer à fabriquer les titres papier ou les cartes aujourd'hui pour l'essentiel de notre activité qui sont remis à nos utilisateurs.
Donc là, c'est intéressant parce que la relation client, je dirais, a multiples facettes chez vous. Je vais reprendre juste une question qui est au cœur de l'event des Big Boss sur la relation client qui nous dit comment transformer son expérience pour que la relation client ne rime plus avec confrontation. Cela sous-entend qu'on s'occuperait plus peut-être des clients mécontents que des clients satisfaits. Mais comment est-ce que vous aborder cette question-là? Parce qu'elle n'est pas simple, finalement, de se dire, même la question beaucoup plus basique, c'est comment vous vous adressez à vos différentes cibles, à vos différents clients, finalement?
Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple et je trouve que la problématique qu'on a posée sur l'event des Big Boss est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que déjà, on est face à des clients. Alors là, on a trois types de clients. Hein. Alors, est-ce qu'on s'occupe plus, au final, des clients mécontents? Oui, on s'en occupe plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'à la limite, un client mécontent, c'est un client qui est concerné et qui nous permet de progresser, de rattraper une situation.
Et là, spontanément, je vous dirais, qu'est-ce que vous faites des clients satisfaits qui, eux, font pas de bruit?
Alors, on les écoute évidemment aussi. On les associe beaucoup aujourd'hui dans des modes agiles, à la construction, au design de nouvelles offres, de nouveaux produits. C'est extrêmement important dans nos clients satisfaits de comprendre à la fois ce qui marche bien, parce que évidemment, ce qui marche entre guillemets pas bien, c'est super important, mais c'est aussi important de comprendre ce qui fonctionne et aussi de comprendre au-delà de ce qui fonctionne aujourd'hui, quelles sont leurs aspirations pour demain. Et souvent, les clients satisfaits ont une propension assez forte à nous ouvrir de nouvelles portes et à nous ouvrir de nouveaux territoires sur lesquels on n'aurait peut-être pas forcément eu l'intuition tout de suite d'aller. Donc évidemment que les clients satisfaits, on les écoute plus finalement pour du design du futur. Et nos clients insatisfaits, par contre, on est plus sur l'amélioration continue parce que souvent, ils révèlent des failles dans nos organisations. Donc au final, je dirais que les clients mécontents, le sujet, c'est évidemment de les éviter. Alors ça peut paraître être une figure de style de dire ça, mais c'est vrai que nous, on a impulsé une vraie démarche d'amélioration continue chez Edenred, qui est justement portée par la direction de l'expérience client et qui part de l'écoute des clients. Donc évidemment, on a essayé de leur apporter des solutions dans le cadre de cette écoute. Mmh. Et notamment, on a mis en place un dispositif spécifique. Et un peu plus d'un an, aujourd'hui, on a créé une petite équipe au sein du service client qu'on appelle Eden Solutions en interne et qui constituait d'experts polyvalents qui viennent vraiment non seulement apporter à des clients qui seraient dans une impasse, mais au-delà de leur apporter une solution qui est surtout là pour essayer de traiter le problème à la racine et faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. C'est là où les clients insatisfaits, les clients mécontents nous amène une valeur qui est extrêmement forte. Et je pense qu'on y arrive plutôt pas mal. Depuis 2 ans, nous, on est engagé dans une transformation qui est assez importante, puisqu'on est passé d'une activité qui était très centrée sur le papier à une très forte digitalisation, donc avec beaucoup de changements dans nos process. Et on a des résultats en termes notamment de recommandations, de NPS, le fameux NPS que l'on suit régulièrement, qui sont assez spectaculaires. Donc on voit que cette démarche bâtie pour partie autour des clients mécontents, elle commence à bien fonctionner.
Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. J'ai bien aimé votre dernière idée, puisque d'autres intervenants nous disent qu'ils sont en train d'imaginer des services de proximité ou des cellules un peu particulières pour des clients qui peuvent être dans une impasse. Je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est une manière d'humaniser cette affaire-là. Vous dites des clients de plus en plus exigeants. J'imagine de l'exigence, ce sont les mécontents, peut-être moins les satisfaits. Et vous parlez d'aspiration de demain. Donc voilà, je vous ai posé 3 questions en une. pardon, mais je vous ai écouté, je prenais des notes au fur et à mesure. Bon. D'abord, pour arriver à identifier tout cela, est-ce que vous faites appel à des technologies qui vous permettent de cerner les clients contents, mécontents, de manière à créer peut-être une relation client ultra personnalisée en fonction des cas?
Oui, mais tout à fait. Donc typiquement, nous, un programme qu'on a déployé dans l'ensemble du groupe, d'ailleurs pas qu'en France, on a une initiative qui s'appelle Passion for Customers, qui est portée au niveau du groupe Edenred dans les 45 pays qu'on évoquait en introduction. Le premier projet qu'on a porté, c'est d'abord de mieux écouter nos clients. Donc on le fait notamment à travers des dispositifs de collecte, ce que l'on appelle de la voix du client, des questionnaires assez classiques en soi, mais au sein desquels on l'a immédiatement pensé pour le rendre actionnable. C'est-à-dire que la philosophie de notre programme, c'est pas juste de mesurer pour mesurer, c'est de mesurer pour agir.
Et donc vous écoutez, je dirais, enfin vous écoutez, vous adaptez toute l'information que vous avez reçue et vous vous adaptez dans le sens où vous allez proposer des offres différentes, des solutions différentes, une approche peut-être différente, voire une approche ultra personnalisée en fonction des cas. C'est-à-dire, vous êtes capable d'affiner à ce point ?
Non, alors nous, on ne le recherche pas forcément aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une offre aussi qui est par construction et d'ailleurs est réglementée, hein, qui est adossée à un dispositif d'exonération fiscale.
Bien sûr. Ouais.
Donc, on a un produit qui est relativement encadré. Pour autant, c'est plus dans les personas qu'on va avoir. Évidemment que un très grand groupe client d'Edenred n'aura pas forcément les mêmes attentes que la PME de 10 salariés qu'on va retrouver, j'en sais rien, en province, et qui va forcément avoir des problématiques, des attentes différentes sur la prise en charge de ses besoins, de ses sujets, de sa commande, qui va être beaucoup plus dans une recherche d'autonomie. Quand sur un grand compte, on va être dans une relation plus de proximité. Donc voilà, on essaie plus de se personnaliser notre relation par rapport à des macro-personas, en tout cas des grandes cibles clients, et puis par contre d'apporter des réponses. En fait, c'est, quand je dis apporter des réponses, c'est regarder ce qui peut parfois nous paraître relativement simple, et puis finalement sembler plus compliqué en vision utilisateur ou client et leur amener ce niveau par contre de réponse, de personnalisation et puis surtout encore une fois éviter qu'ils se retournent dans une impasse parce que le volume fait que mécaniquement on a des choses qu'on ne fait pas bien. Alors voilà, on cherche à faire du mieux possible évidemment.
Et j'imagine que les technologies vous permettent aussi non seulement de voir un petit peu quels sont les desiderata, si j'ose dire, de vos clients premiers, ouais, à savoir les entreprises, de vos clients utilisateurs, à savoir les salariés ou collectivités, et qu'ensemble, grâce à ce mix, vous êtes capable de sortir peut-être de nouvelles offres, peut-être de nouveaux produits ou de réfléchir au coup d'après.
C'est exactement ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, donc je ne peux pas vous révéler tous nos secrets.
Bah, j'allais vous demander vos projets, donc j'y arrivais tout doucement.
Non, mais évidemment qu'en permanence, on cherche d'une part à faire évoluer nos solutions existantes. Et c'est vrai qu'on parlait des solutions d'écoute client comme des questionnaires, mais aujourd'hui, évidemment, quand on regarde des solutions de speech analytics, on voit les premières briques d'IA générative dont tout le monde parle, etc. Il y a de plus en plus de matière. Aujourd'hui, nous, on a des millions de minutes de conversations avec nos clients chaque année, clients, utilisateurs, partenaires marchands, dans lesquels on a une richesse incroyable pour à la fois mieux travailler l'existant et puis aussi imaginer ce que peuvent être des besoins non couverts à date. On en parlait un peu à travers les clients pour le coup satisfaits, mais de manière plus générale, évidemment que le sujet, c'est d'aller couvrir des nouveaux besoins qui expriment nos clients, sur lesquels on voit qu'on aurait une place et des solutions à leur apporter. Nous, c'est notre métier et c'est en plus c'est un peu au cœur de nos valeurs, puisque je pense que c'est un esprit un peu entrepreneurial qui est derrière. Et évidemment qu'on essaie aussi de bâtir de nouvelles solutions. Et donc voilà, évidemment qu'on travaille en permanence à faire évoluer nos produits dans toutes leurs dimensions.
Alors, est-ce qu'il y a une tendance, ça sera ma dernière question, sans dévoiler de secrets professionnels, bien entendu, mais vous avez parlé des aspirations de demain sur lesquelles vous vous penchez. C'est un terme que vous avez prononcé. Est-ce que par rapport à ces aspirations, vous réfléchissez, sans me présenter un produit qui pourrait être exposé à la concurrence, mais est-ce que vous réfléchissez à une autre approche, voire à de nouveaux services, voire à quelque chose d'assez nouveau qui vous permettrait de garder votre place de numéro un, finalement?
Oui, bah, évidemment, et c'est ce qui nous anime, j'ai envie de dire, au quotidien. Je pense qu'il y a deux dimensions qui sont super importantes. La première, et c'est la dimension RSE. Alors, on a la chance d'avoir intégré le CAC 40 RSE il y a quelques semaines, quelques mois. Nous, c'est quelque chose qui fait vraiment du sens pour nous. On a fait le choix, par exemple, sur notre relation client, d'avoir une relation client 100% en France.
D'autant que c'est une attente de vos clients, j'imagine, aujourd'hui. Les questions RSE, c'est plus que jamais d'actualité, si j'ose dire.
C'est totalement d'actualité. Et ça tombe bien parce que nous-mêmes, c'est un moteur très fort de l'entreprise. Donc, on est totalement aligné avec les attentes de nos clients sur ces sujets. Et finalement, notre enjeu, c'est de renforcer nos propres engagements RSE pour que quand nos clients achètent nos solutions, ils renforcent les leurs. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Et après, il y a aussi un volet à destination des utilisateurs qui utilisent nos solutions, qui est évidemment de dire comment demain, par exemple, sur la carte ticket restaurant, on pourrait introduire cette dimension du bien manger. Donc, c'est toutes ces dimensions-là, évidemment, auxquelles on réfléchit. Donc ça, c'est une première dimension, j'ai envie de dire la dimension RSE, mais qui est fondamentale. Puis après, il y a un deuxième volet là qui est plus classique autour de la relation client, qui est finalement comment on peut demain proposer la meilleure relation client hybride digital humain. On voit qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses que peut faire la technologie. On voit qu'on a des clients qui sont de plus en plus appétants à prendre de l'autonomie, à gérer eux-mêmes certains sujets. Pas forcément envie d'appeler un service client pour avoir une copie de facture. Donc, comment on fait des choses très simples, très efficaces, très automatisées, et en même temps, sur des sujets à fort enjeu émotionnel, à fort enjeu pour nos clients, comment on en est là avec la meilleure proposition humaine pour les accompagner, redonner ses lettres de noblesse au métier de conseiller, de clientèle, et amener vraiment de la valeur dans cette relation-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans une époque où les gens sont très très digitalisés, où on est tous dans notre quotidien, et ça ne va ne faire que s'amplifier avec les nouvelles technologies qu'on voit arriver. Paradoxalement, on n'a jamais autant besoin d'humains sur des sujets à fort enjeu, et moi j'ai la conviction que c'est à l'arrivée ça qui fait la différence entre une marque A et une marque B. C'est la capacité d'un commercial, d'une équipe de relations clients à être là au bon moment en proximité avec ses clients.
C'est un sacré challenge quand même. Hein. Vous êtes en train d'unir le digital et l'humain là.
Ouais, c'est un challenge et qui n'est pas évident parce que le métier, si je prends les métiers, la relation client, ça, ils ont complètement changé. Il y a 10 ans, quand j'étais chez SFR, peut-être qu'un conseiller de clientèle, la moitié de sa journée, il a passé à réaliser des actes qui étaient en grande part, qui sont aujourd'hui pour l'essentiel disponibles en autonomie sur un espace client ou bien un chatbot. Mmh. Donc les contacts traités sont en réalité plus compliqués qu'avant, sont plus complexes et à plus fort enjeu émotionnel. Quand vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un, c'est que vraiment vous n'avez pas pu trouver la solution par vous-même et que pour le coup c'est assez anxiogène. Donc vraiment on a un sujet de comment on crée la différence sur cette dimension-là et ça se travaille. C'est-à-dire que ça se travaille par les outils qu'on apporte à nos conseillers, c'est qu'il y a ce qu'on amène à nos clients, puis après il y a ce qu'on amène à nos équipes, finalement pour les libérer le plus possible sur du savoir-faire, comment on leur donne des outils qui vont leur permettre de réaliser en un clic le parcours qui va permettre de trouver une solution au client, comment on leur apporte la bonne connaissance, le sujet de la connaissance est de plus en plus important. On a des clients qui sont très bien informés sur nos produits, comment on fait la différence, comment on a une valeur ajoutée. Mmh. Et après, moi, je crois beaucoup à la dimension du savoir-être. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, pour pouvoir faire tout ça, à libérer le temps de conseiller de choses très techniques, de process, et pour aller recentrer sur la relation humaine. Et ça passe beaucoup aussi par de la formation. On travaille beaucoup sur la dimension relationnelle, sur la dimension émotionnel, sur l'empathie. Enfin, ça, c'est des sujets sur lesquels on investit beaucoup en formation.
Bien sûr, mais vous avez quoi? Des millions de clients, vous? Enfin, d'utilisateurs, déjà, pour commencer.
Ouais, d'utilisateurs, tout à fait. En France, on a un million d'utilisateurs.
Oui, donc c'est pas évident d'avoir cette finesse d'analyse pour arriver à humaniser une relation. Mais ce que vous m'avez dit me va bien, dans le sens où je comprends toute cette démarche que vous faites pour essayer de mieux comprendre, je dirais, le ressentiment d'un client par rapport à une situation peut-être complexe. Vous m'avez pas trop répondu sur les clients satisfaits, parce que peut-être qu'eux aussi ils ont envie de choses mais ils osent pas le dire. Mais bon.
Si, non, mais on les associe plus, par exemple, dans des panels. On a des panels clients, par exemple, comme dans beaucoup d'entreprises, qu'on associe, par exemple, sur des tests d'offres avant les mises en marché. Donc là, on va plutôt être sur des clients qui sont un peu plus satisfaits, qui sont un peu plus sponsors de nos produits. Mais ça va plus. J'ai envie de dire, ça va encore plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on parlait de technologie, aujourd'hui, on veut arriver sur le marché. Et des technologies aujourd'hui d'écoute client, de speech analytics, qui sont aussi capables à chaud de décrire l'émotion de l'appel, le contexte émotionnel d'un appel.
Ah, chouette.
Ce qui renvoie à plein de questions. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi l'émotion d'un appel au service client avec Edenred? Est-ce que c'est l'émotion avec laquelle vous êtes arrivé? Vous étiez énervé, vous étiez en colère, vous étiez frustré. Est-ce que c'est l'émotion à la fin? Ça, c'est fini sur une note positive parce qu'on vous a amené la réponse. Est-ce que c'est le changement d'état entre les deux? Est-ce que c'est le cumul pendant toute la conversation des émotions qu'on peut avoir? Donc ça, typiquement, quand on parlait d'aider nos conseillers, demain, on peut imaginer, on n'y est pas encore aujourd'hui, mais on peut imaginer que lors des conversations, ils aient déjà de smiley sur leurs écrans, qui disent, ben voilà, ton client, attention, là, il est vraiment très énervé ou il est très inquiet. Essaie de creuser, fait preuve d'empathie, essaie de bien comprendre sa problématique pour essayer aussi de vraiment travailler cette dimension relationnelle et émotionnelle. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on commence à avancer. Hein. Je disais, on n'y est pas, mais je pense que c'est, alors je sais pas si c'est en mois, mais c'est à horizon 18-24 mois. Ouais. Aujourd'hui, les technologies nous permettent d'aller chercher ce type d'aide pour nos conseillers. Et puis encore une fois, si demain on voit que le smiley il est vert tout le long de l'appel, peut-être que la question d'ouverture à la fin de l'appel sera est-ce qu'on pourrait vous proposer, si vous avez une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous de plus?
Bon, Damien, la technologie n'est pas faite, on va arrêter là, mais je vous envoie un smiley parce que j'ai passé un bon moment avec vous et j'ai découvert beaucoup de choses.
C'était partagé, Michel.
Merci beaucoup.